continuer à faire des selfies dans le studio. Qu'est-ce que t'en penses?
Eh bien, merci énormément. Vive la France libre.
Une révolution humaine.
L'invité de 11h et quelques. Bonjour à toutes et tous, bonjour à chacun, chacune. C'est Sylvie au micro de l'invité de 11h et quelques et je suis ravie de vous retrouver pour cette sixième saison. Alors pour démarrer la saison 2021-2022, eh bien nous allons parler journalisme, histoire, lettres et exil et célébrer les 150 ans de la Commune, mais pas que, comme toujours. Programme ambitieux me direz-vous, oui, mais avec Céline Léger et Maxime Lamotte, on est prêt à relever le défi. Bonjour Céline. Alors, pourquoi je... Ah, voilà.
Bonjour.
C'est toujours comme ça. Et bonjour, Maxime.
Bonjour.
Alors, Céline Léger est agrégée en docteur en littérature française du 19e siècle, spécialiste des rapports entre les lettres, l'histoire et la presse, auteure, mais aussi scénariste et réalisatrice. Maxime Lamotte est comédien, musicien, réalisateur et créateur musical, on pourrait dire expérimentateur. Tous deux ont réalisé le court-métrage « Rives d'exil » dans lequel on suit Jules Vallès, le grand écrivain journaliste, au moment de la sanglante répression de l'insurrection de la Commune qui doit quitter Paris et s'exiler. Ce court-métrage sera présenté aujourd'hui à 17h à Lux à Valence. Alors, à Lux, au Lux, on en discutait, voilà. On va peut-être dire une fois l'un, une fois l'autre, comme ça on mettra tout le monde d'accord. Céline et Maxime, vous êtes nouveaux Dromois, m'avez-vous dit. On va commencer parce que on tire le fil dans l'invité de 11h et quelques. Alors d'abord, nouveaux Dromois, très bien. Mais alors donc, vous venez d'où?
Alors, on vient tous les deux de Normandie. On est nés tous les deux à Cherbourg. On s'est rencontrés dans la Drôme. Et puis, on a habité à Lyon et on est arrivés dans la Drôme il y a à peu près 2 ans. Et voilà, on s'y trouve très bien. Mais on vit par intermittence entre la Normandie et la Drôme.
Alors effectivement, d'où vient ce mini-exil, puisque l'exil est un des fils rouges de nos entretiens?
Moi, je suis arrivée dans la région Rhône-Alpes pour travailler en tant qu'enseignante de lettres dans le secondaire. Et puis, je suis arrivée à Lyon ensuite pour faire une thèse. C'est la thèse que j'ai faite sur Vallès, qui est parue en livre cette année. Et cette thèse, je l'ai faite jusqu'en 2017. Donc, j'étais entre Lyon et Saint-Étienne. Voilà, et puis après Lyon, je suis arrivée dans la Drôme. C'est plus très loin.
C'est moins loin que la Normandie. On avait envie de campagne, c'est pour ça qu'on s'est...
Alors justement, ouais, parce que pourquoi la Drôme, effectivement? C'est vraiment l'envie de campagne?
On est au pied du Vercors, on trouve ça très beau. On a aussi quelques connaissances dans le coin, donc c'était chouette de les retrouver. Moi, j'ai mon frère qui habite pas si loin. Et puis oui, voilà, entre l'Ardèche et le Vercors, on trouvait ça assez chouette.
C'est quoi, c'est la quiétude?
Ouais, on est bien depuis 2 ans à la campagne, notamment pour créer et s'adonner à nos projets, on est très bien. Et il y a une forme de quiétude en effet, et puis un rapport aux sensations naturelles que procure l'environnement tout autour, et ça nous fait beaucoup de bien. Voilà.
Alors c'est une aventure à deux, du coup, cette installation aussi. Alors on a parlé en off de votre type d'habitat, parce que il est particulier, puisque vous vivez dans une tiny house que vous avez construite. Je parle de ça parce que c'est pas anodin, c'est-à-dire que vous vivez ensemble, vous fabriquez des choses ensemble et vous fabriquez aussi un film, on va en parler. Et cette notion de faire ensemble, qu'est-ce que ça fait de plus? Est-ce que c'est un plus ou finalement est-ce que c'est très différent de construire une maison, de faire un film? Est-ce que pour vous c'est évident?
C'est vrai qu'on aime bien l'idée de se retrouver aussi autour de projets communs, parce que on s'apporte des choses différentes et on aime bien faire équipe. Et c'est vrai que par exemple pour la construction de la maison ou le projet de film, où on a des projets de musique ensemble aussi des fois, et ben finalement on se connaît très bien. C'est un peu la même manière de travailler qu'on a ensemble, même si ça, c'est pas du tout le même résultat qu'on cherche dans l'un ou l'autre projet, mais on connaît un peu l'autre et du coup c'est agréable de travailler ensemble. Du coup on parle beaucoup de nos projets, mais c'est bien.
Ouais, c'est important dans une relation aussi quotidienne d'être stimulé par des projets qui parfois apporte des difficultés et aussi des peurs, mais c'est intéressant de résoudre les problèmes à deux et puis d'essayer de relever des défis. C'est agréable de le faire ensemble.
Résoudre des problèmes à deux, c'est bien. On est toujours, de toute façon, deux cerveaux valent mieux qu'un, quoi qu'il en soit. Donc c'est toujours bien. Jules Vallès, c'est une figure majeure du journalisme et de l'engagement au XIXe siècle, qui était donc activement engagé dans la Commune, qui a été fondateur du Cri du Peuple. Céline, toi, tu as parlé de ta thèse, ça vient de paraître, le livre issu de ta thèse, Jules Vallès, La fabrique médiatique de l'événement 1857-1870, vient de sortir. Comment s'est fait la rencontre entre toi et Jules Vallès, non pas avec Maxime, mais avec Jules?
La rencontre, c'était il y a longtemps déjà maintenant. J'étais en Cagne, je faisais des études de lettres. Et j'avais déjà entendu parler de lui, bien sûr, par morceaux. Mais cette rencontre, elle a eu lieu vraiment en Cagne parce qu'on nous a fait découvrir... Enfin, ma prof de littérature de l'époque nous a fait découvrir un extrait de L'Insurgé, qui est donc le troisième tome de la trilogie autobiographique de Vallès, le tome où il est question de la Commune, notamment. Et c'était un passage qui m'a beaucoup plu, dont l'écriture m'a grippée. Évidemment, j'ai retrouvé certaines des valeurs qui me parlaient, des valeurs politiques, mais aussi une écriture captivante, incarnée, qui m'a beaucoup émue. Et donc, je suis retournée voir Vallès quelques mois après, quand j'ai continué mes études de lettres. Je me suis mise à lire la trilogie en entier. Et puis, au moment de choisir mes sujets de mémoire en master, je suis revenue à Vallès. En essayant de chercher des textes qui n'avaient pas été encore beaucoup étudiés. Parce que même s'il a pu être écarté quand même en partie des programmes scolaires, disons qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui se sont intéressées à lui, et notamment à la trilogie, qui est un de ses plus beaux textes. Et donc je suis allée voir d'autres textes de lui qu'on connaît beaucoup moins. Donc Le Tableau de Paris, La Rue à Londres, ce sont des beaux recueils d'articles qui sont un peu comme des reportages sociaux très novateurs sur le Paris et le Londres de son époque. Et donc, c'est là-dessus que j'ai travaillé pendant mes mémoires. Et puis après, j'ai passé l'agrégation, j'ai enseigné, et je suis revenue à Vallès encore, comme si je n'arrivais pas à le quitter, et pour faire une thèse sur ces articles écrits sous le Second Empire de Napoléon III. Voilà. Mais c'est vraiment en Cagne que je l'ai rencontré. Et en fait, on n'a jamais cessé de se fréquenter depuis, par l'écriture.
Maxime, toi, tu connaissais, est-ce que c'est la fréquentation c'est par, comment on appelle ça,
imprégnation.
Par polarité, voilà, ouais. Par imprégnation de Céline.
Oui, moi, j'ai découvert Vallès par Céline. J'avais entendu le nom, mais pas plus que ça. Et en effet, donc, je l'ai découvert d'abord à travers les articles qu'elle a écrits, qu'elle voulait me faire lire et tout. Et puis je me suis mis petit à petit plus dans le personnage jusqu'à essayer de l'incarner totalement.
Et tu as effectivement de l'incarner totalement, mais est-ce que du coup ce regard très, très particulier, il est effectivement extrêmement novateur en termes de journalisme et au plus près du peuple. Alors, le Cri du Peuple, c'est une chose, mais c'est vraiment au plus près du peuple, c'est peau contre peau.
Ouais. Dès le Second Empire, bien avant qu'il écrive la trilogie, c'est un journaliste novateur, en effet, parce qu'il est l'un des premiers reporters sociaux, on va dire, sur son époque. C'est un historien aussi à sa manière, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ma thèse. Un historien qui essaye de faire entrer le peuple dans son écriture. Donc le peuple de l'époque prend une place inédite dans le journalisme de l'époque. Un journalisme qui était quand même, pour sa plus grande partie, bourgeois et intéressé par les anecdotes boulevardières et les potins mondains. Et donc Vallès, il révolutionne en quelque sorte ce journalisme. Alors après, c'est pas toujours évident pour lui de se faire une place dans le journalisme de l'époque, puisque c'est un journalisme très censuré, sous Napoléon III. Donc lui, en tant qu'opposant au Second Empire, qui réclame plus de justice sociale et plus de liberté politique, il est particulièrement confronté à la censure. Et donc c'est pour ça que tout au long de sa carrière de journaliste, avant la Commune, il essuie un certain nombre de sanctions, parfois très sévères. Donc ça peut être des amendes, évidemment, liées à des articles qu'il a écrits. Ça peut être des interdictions ou des suspensions d'articles, des suspensions de journaux qu'il a pu créer, mais aussi la prison qu'il a pu connaître à plusieurs reprises. Donc voilà, il ne faut pas oublier non plus le contexte dans lequel il écrit, qui est loin d'être favorable, et en même temps qui vient justement aiguiser aussi sa critique. La censure, parfois, c'est presque intéressant sur le plan littéraire, parce que ça lui permet en tout cas, ça l'oblige
à aller chercher
des moyens contournés, indirects, notamment, par exemple, l'ironie, qui permet de faire passer des messages subversifs de manière indirecte. Donc c'est intéressant aussi sur le plan littéraire, et comme Vallès, c'est aussi une grande plume, ça peut aussi, comment dire, enrichir son écriture, là, paradoxalement, là. La censure a du bon, on va dire.
Mais je trouve que c'est très intéressant de reparler de la censure de cette époque. C'était en France, on le rappelle juste, simplement, parce que parfois on a tendance un petit peu à oublier certaines évidences.
C'est vrai.
Mais les choses ne sont jamais très loin. Rien n'est jamais complètement acquis. Et c'est intéressant aussi de voir ce combat qu'il a dû mener. Et donc, le chemin qui a été fait depuis, mais qui reste toujours extrêmement fragile, malgré tout, en termes de liberté d'expression, notamment. Moi, je vous conseille vivement, parce que je suis une fan de bande dessinée, je vous conseille vivement de lire le Cri du peuple de Jacques Tardy, issu du livre éponyme de Jean Vautrin, parce que ça fait partie des grandes références par rapport à cette période de la Commune. On va faire une première respiration musicale. Et alors, vous m'avez envoyé plein de choses. Alors, on ne va pas écouter tout de suite la bande-annonce du film dont on reparlera tout à l'heure. Mais je vous propose d'écouter Rouage lunaire. Alors, Maxime, si tu peux nous en dire quelques mots de ce morceau.
Alors, c'est un morceau que j'ai composé pour il y a un an. En fait, il y a un an, je me suis dit que j'avais envie de montrer des choses, de partager des choses avec les gens sur ma musique ou sur le cinéma à chaque nouvelle lune. Le Rouage lunaire, c'était le premier morceau que j'ai sorti. Et donc ça parle un petit peu de ce projet-là et de pourquoi je fais ça. Et c'est un morceau qu'on a réutilisé dans le film, que Céline avait envie de mettre. C'est pas moi qui ai à tout prix voulu mettre mon morceau. Céline a voulu le mettre à un certain passage. Et donc on a mis une version instrumentale de ce morceau-là
dans le film,
au milieu de Chopin et Mendelssohn. Donc c'est chouette pour moi. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas le même niveau de composition. Mais
quand tu dis partager à chaque nouvelle lune, c'était partagé sur
Internet. Sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube Maxime Lamotte, et notamment cet été, j'ai partagé entre autres le making of du film Ma transformation en Jules Vallès. Mais donc des fois c'est de la musique, des fois c'est plus en rapport avec le cinéma. Mais comme j'aime bien ces deux univers, je me donne le droit de naviguer entre les deux.
Très bien, il faut se donner les droits de toute façon. Il faut pas qu'on nous les donne. Rouage lunaire, c'est tout de suite dans vos oreilles.
Mes pensées dans tous les sens. Continuer d'explorer sans savoir où aller. De la musique au cinéma, en passant par les rêves où tout ça continue parfois. C'est exaltant. Vraiment.
demande alors si le son, les images et les rêves entrent en contact. Quelle sorte d'étincelle cela produirait-il ? La lune sera mon sablier. Sans cela, je pourrais ne jamais m'arrêter de chercher. Je pourrais courir éternellement derrière une forme qui m'échappe et m'échappera toujours. La lune sera mon sablier. Et chaque fois qu'elle sera noire, nous nous retrouverons. Vous êtes mon élan. Prenez bien soin de vous et rendez-vous à la prochaine lune.
Rouage lunaire de Maxime Lamotte. Vous écoutez Radio BLV 93.6 et c'est l'invité de 11h et quelques. Aujourd'hui, je suis avec Céline Léger et Maxime Lamotte pour parler de plein de choses, de création, etc. Et aussi du court-métrage Rive d'exil qu'il propose ce soir à Lux à 17h à Valence. Alors, c'est 17h pour la projection et puis ensuite, ce sera suivi d'un débat. On aura l'occasion d'en reparler. Vous avez écouté donc Rouage lunaire. Maxime, tu nous disais que c'est une composition, une de tes compositions, texte et musique, que tu as créé pour ces rendez-vous avec rendez-vous avec les autres, comme ça, à toutes les nouvelles lunes. Céline, tu as souhaité intégrer la musique donc dans le film. Comment cette écriture elle s'est faite, parce que passer de l'écriture d'une thèse à l'écriture scénaristique, c'est un pas, c'est pas la même chose, on n'écrit pas de la même manière, comme on n'écrit pas non plus de la musique tout à fait de la même manière pour un morceau, une chanson ou pour l'image.
Oui.
Donc comment ça se fait ça?
Ah oui, c'est sûr, c'est pas du tout la même chose. En tout cas, moi, justement, c'était ça qui m'attirait, c'était de changer de mode, on va dire, d'écriture pour parler d'un sujet qui restait à peu près le même. J'avais envie de l'explorer, ce sujet que j'avais bien exploré dans tous les sens pendant ma thèse. J'avais envie de l'exploiter différemment. Et donc, c'est pour ça que le format du scénario m'a intéressée. Et puis après, voilà, l'idée, c'est de transformer le scénario en film, donc ça permet d'exploiter encore plein d'autres choses. La forme visuelle, sonore, etc. Et donc, pour ce qui est du scénario, justement, tout à l'heure, on parlait de notre travail à deux, mais Maxime fait partie des personnes qui m'ont aidé aussi à apprendre un peu l'écriture scénaristique, puisque Maxime, il a déjà écrit des clips. Alors, ce n'est pas exactement la même chose qu'un court-métrage, n'empêche qu'il y a une ressemblance.
Il y a une écriture narrative.
Voilà. Et puis, dans la forme courte aussi, etc. Et puis, je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup lu. Bon, forcément, je suis allée me promener un peu dans les livres d'écriture scénaristique en essayant de ne pas trop m'y perdre. J'ai aussi beaucoup regardé les scénarios qui sont disponibles sur, je crois que c'est la Scénariothèque ou quelque chose comme ça. Enfin, ce genre de sites qui sont utiles aussi pour voir comment concrètement fonctionne un scénario d'un court-métrage ou d'un film que je peux connaître par ailleurs.
Oui, parce qu'il y a un côté très technique.
Oui, voilà, simplement. Complètement. Et sur le côté technique, Maxime m'a beaucoup aidée parce que c'est quand même plutôt lui qui gère justement tout le côté technique, on va dire, du cinéma. Et voilà, et donc du coup, j'ai essayé, je me suis lancée avec un peu d'appréhension, mais en me disant que de toute façon, j'avais rien à perdre et qu'il fallait que je m'amuse. Et que voilà, alors avec cette particularité quand même que mon scénario, il est fortement, comment dire, basé sur la réalité historique. Donc il y avait cette contrainte-là que je me suis imposée de ne pas m'éloigner de, voilà, des témoignages et des biographies ou des lettres sur lesquelles je me suis appuyée.
Est-ce qu'il y a malgré tout des éléments fictionnels ou est-ce que tu as essayé de rester la plus proche possible de la réalité au travers des témoignages qu'on en a, puisque voilà, on n'était pas là pour voir.
C'est ça, c'est toujours indirect. C'est toujours indirect, donc il faut toujours garder un peu de distance. Mais en tout cas, je me suis appuyée vraiment énormément sur voilà, les lettres de Vallès, des biographies le concernant, des articles de Vallès, et puis son autobiographie, évidemment. Même si l'autobiographie, elle est aussi en partie romancée. Enfin, il n'y a pas... Voilà, il y a une part fictive. Donc, évidemment qu'il y a eu des micro-détails dans le court-métrage. Bon, c'est un film très bref, donc il y a peu de détails fictifs, mais il y a quelques détails fictifs, évidemment, notamment dans les conversations, dans les scènes de conversation. Parce qu'il faut bien essayer de reconstituer, comment dire, un peu la saveur d'une conversation avec des détails auxquels on n'a pas accès. Mais sinon, pour le reste, il y a vraiment voilà, beaucoup de... Il y a vraiment une vocation documentaire dans le court-métrage. Et même pour certaines scènes de dialogue, en fait, ce sont des dialogues que j'ai repris dans ce que racontait Séverine, qui est l'autre personnage du film, ou Vallès. Donc, a priori... C'est pas du mot pour mot, mais enfin, en substance,
très proche,
c'est ça.
Voilà. C'est ouais. Très proche. Et alors, le choix de l'angle sous lequel tu traites le sujet, entre guillemets, il s'est fait comment ? C'est cette notion d'exil, c'est quelque chose qui, sur lequel c'est quelque chose sur laquelle tu travailles ?
Oui, j'ai travaillé sur les retours d'exil pour diriger un numéro de revue. Donc, je travaille souvent avec la revue Autour de Vallès. Dans laquelle j'ai écrit un certain nombre d'articles. Et récemment, j'ai dirigé un numéro de revue sur les retours d'exil au XIXe siècle. Donc notamment sur les retours d'écrivains exilés politiques. Et donc c'était un travail intéressant qui aurait dû déboucher sur un colloque, mais c'était pendant le premier confinement, donc le colloque n'a jamais eu lieu. Cela dit, la revue est parue. Et donc ça m'a beaucoup rapprochée aussi de ces questions de l'exil. Pour Vallès, c'est forcément essentiel puisqu'il a passé 9 ans en exil à Londres, essentiellement à Londres, mais aussi un petit peu en Belgique et en Suisse, donc après la Commune de Paris, puisqu'il a dû fuir, on va dire, la justice française. Et donc, il a été très longuement en exil. Et donc, pour moi, c'est une période quand même essentielle dans son existence. Et en plus, la période pendant laquelle il a écrit une grande partie de sa trilogie autobiographique, qui est quand même la grande œuvre de Vallès. Et en même temps, la question de l'exil, pour moi, c'était important aussi parce que ça permet d'aborder les choses de manière plus intimiste. Forcément, Vallès, en exil, il est seul. Il est loin des gens qu'il aime. Et donc, j'avais envie aussi d'aller chercher ce Vallès un peu plus intime, justement. Et bon, en plus, ça, on va dire que ça coïncider plutôt bien avec notre petit budget, parce que c'est un projet qui est autoproduit. On a eu la chance d'avoir une petite subvention de mon laboratoire de recherche. Mais voilà, sinon, c'est un projet autoproduit, donc avec un petit financement participatif. Donc, on n'avait évidemment pas les moyens de reconstituer des scènes de rue de la commune avec 150 figurants par scène. Enfin, voilà. Donc, j'ai dû aussi jongler avec les contraintes et puis mes centres d'intérêt. Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de se centrer sur un Vallès plus intime, de réduire aussi le personnel dramatique et d'avoir accès à Vallès dans l'intimité pour cerner aussi ses souffrances. C'est un Vallès un peu mélancolique que nous présente Rives d'Exil, je ne vous le cache pas, mais ça permet d'aborder aussi la question de la répression collective massive de la commune à travers ce cas-là, à travers ce cas singulier. Parfois, je trouve qu'on aborde mieux les choses collectives par le détail. Parfois, on peut être un peu plus juste par le détail qu'en cherchant à cerner trop de choses en même temps, me semble-t-il. Voilà, mais je ne dis pas que forcément qu'on a réussi le défi, mais en tout cas, c'était un peu ça l'idée de départ. Voilà.
C'est ta démarche. Et toi, Maxime, alors tu as participé effectivement à à l'écriture, mais tu as participé aussi, puisque c'est toi le comédien, c'est toi qui rentre dans la peau. Je parlais de peau tout à l'heure, et voilà, on est bien au plus près de l'intime. Comment on... Alors, tu es comédien, donc c'est ton métier hein, de rentrer dans la peau d'un personnage, c'est le cas de le dire. Mais comment, malgré tout, on... rentrer dans la peau d'un personnage, ça veut dire beaucoup de choses. Là, en l'occurrence, comme c'est vraiment filmé au plus près, en tous les cas, on est vraiment sur l'intime. Donc, ça veut dire aussi faire sienne l'humeur du temps. C'est pas simplement un personnage, c'est aussi une époque et c'est surtout toute la charge justement qu'il y avait. Comment tu as travaillé là-dessus ?
Alors, il y a plusieurs choses. On a beaucoup discuté de ça avec Céline qui du coup connaît toujours bien mieux Vallès que moi quand même, en tout cas ses écrits et tout. Mais moi, donc, j'ai essayé de cerner le Vallès justement intime, essayer de comprendre où était placée sa voix, par exemple, de comprendre ses traits de visage, comment ils sont, et du coup, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi il a telle ou telle ride, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire de son caractère aussi.
Il a souvent un air renfrogné sur les représentations de l'époque, Vallès.
Oui, c'est vrai qu'il n'est pas très souriant.
Alors, souvent sur les représentations de l'époque, hein, on s'aperçoit qu'il y a peu de gens qui sourient.
Oui, c'est ça.
Mais c'est vrai que ça ne lui donne pas un air extrêmement aimable, alors... Maxime, il est forcément allé un petit peu de ce côté-là aussi.
Voilà, il a notamment une ride entre les deux yeux, là, la ride du lion, que j'ai essayé d'avoir aussi, de marquer, et puis avec le maquillage aussi. Mmh. Donc ça, c'est pour le côté voix et puis physique un peu. Et puis par tous les témoignages qu'on avait justement, par exemple, de Séverine ou quoi, qui pouvait décrire son caractère,
on a parlé de Séverine.
On n'en parle pas trop parce que ça fait partie des rencontres du court-métrage, d'accord. Donc on ne veut pas trop déflorer le film, mais donc, c'est un personnage qui a beaucoup compté pour Vallès et qui est une femme journaliste très importante à la fin du 19e siècle. Voilà.
D'accord. Excuse-moi, je t'ai
coupé. Par rapport à ces témoignages sur leurs discussions et tout, ça me permettait de me rendre compte des mots qu'ils pouvaient utiliser aussi.
Oui.
Et puis d'essayer de me faire à tout ce lexique qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser au quotidien aujourd'hui.
Ouais, et le vocabulaire parfois donne les postures.
Voilà aussi, alors il y a le vocabulaire, il y a la manière de se... porter aussi soi-même, son corps, et puis les costumes aussi qui peuvent aider à rentrer dans un personnage. Moi, je vois par exemple, je me ressemblais pas du tout, et ça troublait même les gens autour de moi, même Céline qui me connaît très bien avait l'impression que j'étais pas là, parce que aussi je restais dans le personnage, même quand on tournait pas, j'avais tendance à essayer de rester concentré dans le personnage pour pas rentrer et sortir sans arrêt, c'est fatigant sinon. Et du coup, je souriais beaucoup moins qu'à mon habitude et j'avais l'air beaucoup plus renfrogné peut-être. Et je sentais que j'impressionnais les gens vraiment différemment. Enfin, j'impressionne pas trop les gens, je pense, d'habitude. Et là, les gens avaient du mal à me regarder dans les yeux. Je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre qui se passait. C'est assez troublant de le vivre. C'est intéressant. C'est une expérience que je me trouve chanceux d'avoir pu vivre ça. Surtout avec les témoignages. Et puis après, il y a une part d'inventivité aussi. D'invention.
Je pense qu'il faut toujours... notamment quand on a affaire à un biopic, il faut aussi garder un petit peu de distance avec l'objectif peut-être irréaliste de vouloir de coller copier. À tout prix à la réalité, de copier, parce que c'est compliqué. Déjà, moi, mon Vallès, c'est pas le Vallès de quelqu'un d'autre. Chacun a son Vallès aussi et a le droit d'exploiter telle ou telle facette du personnage. Donc là, on a exploité quelques facettes du personnage. Déjà, ça c'est une chose. C'est pas, on cherche pas à représenter Vallès dans toute sa complexité non plus, puisque c'est un film qui est court et on montre certains moments de sa vie. Donc on le montre aussi dans certaines humeurs. Donc évidemment, ça ne résume pas Vallès. On prétend pas résumer Vallès et on prétend pas le copier non plus. C'est vraiment l'idée de l'incarner pour faire passer certaines valeurs et certaines émotions qui étaient les siennes et qui pour nous sont fortes. Voilà, mais sans chercher absolument à copier le Vallès qu'on suppose.
De trouver l'équilibre entre moi aussi, et va laisser le point de rencontre entre nous deux, qui qui reste en restant crédible moi
chacun,
dans le personnage,
en fait.
Mais voilà, ne pas m'oublier non plus totalement. Enfin, voilà, c'est moi qui incarne Vallès. Ouais. Je suis pas Vallès, mais
oui, ce qui c'est parce que ça risquerait de donner de toute façon des choses fausses.
Voilà.
Oui, voilà.
Alors, moi, je vous propose de rentrer. On va écouter la bande-annonce. Et puis, vous allez nous raconter quand même un petit peu, même s'il ne faut pas tout dévoiler, nous raconter. C'est un court-métrage qui fait 17 minutes.
C'est ça.
Donc, ce n'est pas non plus un court.
Non.
Voilà, on a le temps de s'installer. Je propose d'écouter tout de suite la bande-annonce.
Ma chère mère, je vais probablement mourir. Je regarde le ciel du côté où je sens Paris. Il est d'un bleu cru, avec des nuées rouges. On dirait une grande blouse inondée de sang.
Voilà la bande-annonce de Rive d'exil, court-métrage réalisé par Céline Léger et Maxime Lamotte, que vous retrouverez donc au Luxe ce soir à 17h. Et puis avec un débat, un échange avec tous les deux par la suite. Céline, Maxime, alors est-ce qu'on peut avoir dévoiler un tout petit peu? Donc on a compris que c'était un Vallès intime, que c'est l'exil. Donc c'est au moment où il part, à Londres.
Oui. C'est un court-métrage qui saisit Vallès le dernier jour de la Commune, donc de la fameuse semaine sanglante pendant laquelle de très nombreux communards ont été fusillés. Et donc c'est une semaine terrible d'arrestation, d'exécution. Et Vallès était sur les barricades au premier rang. Lorsque la dernière barricade est tombée à Belleville, il était présent. Et donc, quand il a su que c'était terminé pour les communards, enfin qu'il a compris qu'il fallait fuir, il a réussi à se cacher chez un ami vers Montparnasse, au cœur de Paris, où il est resté clandestinement pendant plusieurs semaines, qui lui ont paru interminables. Et je m'appuie sur ses écrits. Et donc, il est parti vers la Belgique d'abord, et puis vers l'Angleterre, seulement à la fin de l'année 71, donc plusieurs mois après. Et donc, c'est ça le début du film. C'est ce mouvement de fuite. Non pas une fuite par rapport à ses responsabilités, parce qu'il a assumées jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour de la semaine sanglante, mais ce moment où voilà, il risque la mort, c'est une nécessité vitale en fait de fuir, comme ça l'a été pour beaucoup d'autres communards. Et en même temps, il s'est estimé chanceux aussi de ne pas être déporté, de ne pas avoir été exécuté. Mais voilà, donc il a dû fuir et c'est ce moment que l'on saisit dans le début du court-métrage.
Pourquoi parler de Vallès aujourd'hui? Pourquoi c'est important à ton sens, à votre sens? Parce que bon, tu as fait ta thèse, tu as ok, d'accord, très bien, mais pourquoi, au-delà du fait d'avoir envie de tester le cinéma et l'image animée, pourquoi est-ce que c'est important? C'est important.
Ouais, je pense que proportionnellement à l'œuvre qu'il a laissée, au combat qu'il a mené à son époque, il reste assez méconnu, en tout cas du grand public. Je pense que ce serait intéressant de le connaître mieux. Et comme tu le disais tout à l'heure, il est très moderne, Vallès. Il a un propos journalistique et littéraire. Mais c'est vrai que ça a été aussi un très grand journaliste qui a écrit énormément d'articles, énormément. Il a un propos moderne. Une manière aussi de véhiculer ces messages de justice sociale, de revendication des libertés politiques qui est moderne. Et je trouve que ça peut nous parler maintenant, parce qu'il y a plein de choses qu'il a réclamées qui sont évidemment jamais advenues. Et donc, voilà, au-delà de ses valeurs, c'est aussi, je trouve que sa manière de les faire passer, elle peut être convaincante encore pour les jeunes aujourd'hui. Alors, j'allais dire, je pense quand même que je suis enseignante dans le secondaire, je m'aperçois que pour peut-être des adolescents aujourd'hui, Vallès, c'est compliqué à lire parce que il faut restituer tout un contexte historique. Et puis l'écriture, elle porte les marques de l'époque. Donc c'est plus une écriture si simple, évidemment. Mmh. Je vais pas dire le contraire, mais n'empêche que je pense qu'il a encore plein de choses à nous dire et à dire à la jeunesse d'aujourd'hui. Et peut-être justement que le court-métrage, ça permet d'aborder Vallès d'une manière un peu plus accessible que par ses textes, tout en faisant entendre ses textes, parce qu'il y a un certain nombre de morceaux de l'insurgé, par exemple, qu'on retrouve dans le court-métrage.
Effectivement, un très beau verbe. Alors, moi, personnellement, j'ai découvert Vallès avec... J'en ai pas lu beaucoup, hein, j'ai lu que L'Enfant, mais je devais avoir 12-13 ans quand j'ai lu L'Enfant, et c'est quelque chose qui, pour moi, fait partie de mes lectures fondamentales. De qui je suis, des engagements que je peux avoir et de la prise de conscience à 12 ans d'un monde qui m'était totalement inconnu. Alors, j'entends quand tu dis, et j'étais une enfant normale, hein, voilà, il n'y avait pas de... Mais j'entends quand tu dis qu'aujourd'hui, c'est difficile de lire cette langue qui peut paraître datée, enfin qui est nécessairement datée, voilà, de fait. Mais en même temps, la langue porte en elle-même l'histoire. Tu parlais d'historien, c'est aussi une démarche historique que de lire cette langue-là.
Oui, complètement. Et c'est ça, c'est une manière d'accéder à l'histoire de son époque, mais une manière qui est très captivante et très incarnée, très concrète. Il y a aussi beaucoup d'humour chez Vallès, et parfois on le souligne peut-être pas assez, parce que les détracteurs de Vallès, j'en ai lu, j'en ai entendu, pourrait dire, mais oui, mais il est toujours dans la plainte, dans le pathos, etc. C'est vrai qu'il y a cette dimension-là dans son écriture, qui est reliée aussi à la critique de la société. Voilà. Et je trouve qu'il est parfois très poignante, et c'est ça aussi la qualité de son écriture. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup d'humour, notamment dans L'Enfant. Il y a un art de la caricature chez Vallès qui est très, très savoureux, parce qu'il sait dresser des portraits... très drôle et en même temps très juste des personnes qui l'entourent. C'est le cas aussi lorsqu'il parfois il dresse le portrait de certains communards pendant la Commune dans l'insurgé, et ça lui permet aussi de critiquer les postures héroïques au sein de la Révolution. Toutes ces personnes qui s'érigent en martyrs ou en héros et qui finalement reconduisent une forme d'autoritarisme en fait au sein de la Révolution. Donc il dit plein de choses aussi à travers l'humour, sans jamais non plus être dans la méchanceté vis-à-vis des personnes. Non, on sent qu'il y a toujours quelque chose qui passe derrière.
Il aime profondément les humains.
Ouais, c'est un
même s'il est parfois
Non, c'est un humaniste, Vallès, enfin au sens large. C'est quelqu'un qui aime les autres, et c'est pour ça que c'est pas une écriture qui est plombante, même si effectivement il passe beaucoup de temps à critiquer les travers de la société, notamment dans L'Enfant. Il parle du collège prison, il parle de la cellule familiale qui emprisonne, de la sévérité des parents qui cherchent à faire de lui un petit bourgeois. Il parle de plein de choses, et effectivement il a parfois la dent dure contre son entourage. Mais ça, voilà, c'est une critique qui dépasse de loin la seule critique des personnes, qui est, je pense, qui cerne aussi des vrais travers sociaux, dont certains ont évolué, évidemment, que le collège de l'époque, de son époque, n'est plus le même. N'empêche qu'il y a des choses qui se retrouvent.
Fait de s'ennuyer à mort et attendre que le temps passe pour être libéré de... Moi, ça m'a beaucoup parlé, par exemple.
Je pense que c'est, les enfants restent les enfants, qu'ils soient au 19e ou au 21e siècle. Ouais. Je pense qu'il y a une filiation, malgré tout, qui existe, même si les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes.
Ouais.
On est bien d'accord. Et encore, que ça dépend pour quels enfants.
Ouais.
Faire un travail, le travail de mémoire, on parle souvent du travail de mémoire. Donc Jules Vallès, on parle de la commune, c'est les 150 ans de la commune, c'était important de marquer cet événement, ce temps qui fait partie vraiment des paliers dans l'histoire, dans notre histoire commune, entre guillemets. Toi, Maxime, en tant que créateur et donc compositeur notamment, toi tu es dans un autre univers. Tu n'es pas dans un fil historique. Donc tu es dans quelque chose qui est au contraire très très contemporain. Là aussi, est-ce que c'était naturel pour toi? Est-ce que ça s'est fait très naturellement finalement, le passage de cette esthétique extrêmement contemporaine à l'histoire?
Au niveau du travail de l'image, au niveau de, par exemple, c'était un défi aussi à relever, parce que c'est vrai que de tout ce que j'ai tourné pour l'instant, plutôt moi derrière la caméra, c'était pas forcément les ambiances qu'il y avait. Mmh. Et du coup, je me suis beaucoup renseigné. Alors, en apprenant à travers les livres, à travers YouTube aussi, à travers plein de techniques comme ça. Et donc, on a travaillé ça grâce à des lumières de cinéma et puis aux bougies, aux lampes à huile qu'on avait.
La lumière est importante.
Voilà, ouais, vraiment. Et bon, on a tendance à oublier des fois le directeur de la photographie sur les films, mais c'est quand même un rôle.
C'est la lumière en image.
C'est ce qui fait pour moi aussi qu'un film est beau. Enfin, c'est même... Et donc il y avait ça à faire, et tout en cachant évidemment toutes ces... Il ne pouvait pas y avoir de source lumineuse anachronique dans l'image, donc tout devait être caché tout le temps. Et c'était un défi qu'on a essayé de relever et qui nous a pris beaucoup de temps sur le tournage, les installations des tableaux comme ça à réaliser et à tourner. Comme je te disais tout à l'heure, j'aime bien tester plein de choses, et ça faisait partie des choses que j'avais envie un jour aussi de tester, tourner avec des bougies et que l'image soit, essayer que l'image soit la plus belle possible, même si on pouvait manquer de lumière.
C'est vrai que Maxime, il a fait un gros travail en amont dans la préparation du tournage sur le choix des lumières qui allait nous servir hors champ, on va dire, pour pouvoir créer la lumière de l'époque, donc la lumière vacillante des bougies. Et puis après, tu as fait un gros travail aussi au moment du tournage pour essayer d'affiner un maximum ces choses-là. Et on est content d'avoir essayé de relever ce défi-là.
Vous avez travaillé que tous les deux, ou est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui vous ont...
Alors,
donner un coup de main sur la réalisation de ce court-métrage.
On avait surtout des aides ponctuelles. En fait, on était essentiellement tous les deux à porter le projet. Ensuite, pour ce qui est du maquillage, on avait donc pour le coup une maquilleuse, Aline Bruno, qui est dromoise elle aussi.
Qui découvrira le film ce soir
et qu'on salue parce qu'elle a fait un très beau travail. Elle sortait de formation en tant que maquilleuse professionnelle, donc c'était son premier court-métrage, et elle a été vraiment très appliquée, rigoureuse et talentueuse à nos côtés, donc ça a été vraiment super de la voir. Après, pour ce qui est de la régie, des installations, etc., c'était vraiment essentiellement des aides de proches, en fait.
Il faut en demander.
Voilà, très ponctuel.
À un proche, ma mère ou notre frère, ou de tenir la perche, par exemple.
Voilà, par exemple, pour la perche.
On leur expliquait, voilà, faut pas que la perche rentre dans le champ. Donc j'ai quelques plans comme ça au montage où on a vu que la perche était totalement dans le champ et tout. Forcément, il y avait des...
Ouais.
On ne travaillait pas avec des pros, mais nous non plus, on apprend aussi. Donc c'était chouette aussi de vivre cette expérience commune, justement, avec des proches, hein, autour d'un projet, quoi, de se rassembler plutôt que ce soit juste autour de repas et tout, qu'il y ait un projet. Et ça, ça nous a fait plaisir, et à eux aussi, quoi, je crois. Ils ont passé un chouette moment mémorable.
C'est la première diffusion ce soir?
Non, on a
dans la Drôme.
Dans la Drôme, oui. Voilà. Dans la Drôme, oui. Par contre, on a eu un certain nombre de projections déjà un peu partout en France. Et donc, on avait eu une avant-première au musée Paul Éluard à Paris. Puis ensuite, on a eu des projections en Normandie, à Paris.
Et les retours, cinémas, alors ?
Et aussi dans les Pyrénées, en Haute-Loire, qui est la terre natale de Vallès. Et les retours sont chouettes parce qu'à chaque fois, le fait d'organiser une projection débat et d'être présent, ça permet effectivement d'échanger avec le public. Donc nous, on prend toujours un peu de temps au début, avant la projection, pour contextualiser le film, parce que ça nécessite quand même des repères historiques, vu que ça va vite, que c'est un peu condensé. Donc ça permet de fixer des repères. Ensuite, on projette le film, et après, à chaque fois, on a l'occasion de discuter avec le public. Et pour l'instant, on a toujours été très agréablement surpris, parce que les gens discutent vraiment avec nous. Et du coup, ça permet de parler de Vallès, de la commune, du journalisme d'hier et d'aujourd'hui, aussi parfois de la manière dont on peut réaliser un court-métrage avec une équipe réduite, ça peut intéresser les gens aussi. Donc on aborde toutes ces questions-là et c'est chouette, du coup, de discuter avec les gens autour du projet.
Les débats ne sont pas toujours les mêmes en fonction du public qui s'y trouve. Des fois, on fait plus de liens, on nous demande de faire des liens avec l'actualité presque, ou le présent. Et puis des fois, c'est plus historique et y a des gens très spécialistes en face aussi qui connaissent très bien le sujet, donc qui discutent de choses qui plus historiques.
Voilà, il y en a qui sont là pour discuter de Vallès, absolument, envers et contre tout, et on les comprend aussi. Et puis il y en a qui sont là pour discuter de la commune, ou alors du journalisme. La dernière fois, dans les Pyrénées, c'est vrai que les gens étaient vraiment intéressés par la question du journalisme d'hier et d'aujourd'hui, par ce qui a pu changer, par ce qui a pu évoluer.
Oui, et puis cette notion de censure, alors aujourd'hui, où en plus on est, malheureusement, c'est dans l'actualité avec l'Afghanistan, où on voit des journalistes se faire rouer de coups, risquer véritablement leur vie, du coup être en danger. Beaucoup partent et puis certains restent aussi avec un immense courage. Enfin, l'actualité nous rattrape, même si on n'est pas dans la même logique. Il n'empêche qu'il y avait ça. On ne se rend pas compte de la violence de l'époque aussi, je pense. Donc ça fait totalement écho.
Oui, puis Vallès, je tiens à préciser, c'est quelque chose qu'on essaie de rappeler dans le court-métrage, qu'il a défendu toute sa vie la liberté sans rivage, ce qu'il appelait la liberté sans rivage. C'est une formule qui m'a inspirée pour le titre du film « Rives d'exil ». La liberté sans rivage, c'est-à-dire la liberté absolue de la presse, y compris pendant la Commune, lorsqu'il était question d'interdire les journaux anti-communards. Vallès disait non. La presse, la liberté de la presse, elle doit
elle
être illimitée, en fait. Et donc ça, c'est peut-être vraiment l'un de ses plus beaux combats. Et on essaye de l'évoquer rapidement dans le film. On fait apparaître le cri du peuple rapidement dans le film. Et puis on fait apparaître aussi la fiche rouge. Mais voilà, cette liberté sans rivage, elle est vraiment au cœur des combats de Vallès. Et elle parle encore aujourd'hui.
Alors, effectivement, allez, vous les retrouvez ce soir, donc à 17h à Lux, à Valence, pour la projection de Rives d'exil et pour un échange. Vous voyez, ils sont passionnants tous les deux et passionnés. Donc vous pourrez échanger. Pour finir, parce qu'il est il est quasiment temps de se dire au revoir. Moi, je voulais qu'on termine avec de la musique et revenir sur ton travail, Maxime, qui est donc de compositeur, chanteur, musicien. C'est compliqué quand les gens ont plein de facettes. Créateur, moi j'aime bien ce terme de créateur qui peut paraître un peu. On va se quitter avec Les yeux ouverts, je rêve, et donc ça fait partie de tes compositions. Est-ce que toi tu es dans une logique de faire un album ou pas, ou est-ce que comment tu te positionnes en tant que musicien?
Ça fait partie des projets que j'aimerais réaliser sur le moyen terme. Peut-être d'abord un EP, un 5 titres, 6 titres. Et donc cette chanson, j'aime bien moi être souvent, enfin il m'arrive de rêver de chansons et du coup de les écrire le lendemain matin, ce que j'ai rêvé. Et donc cette chanson, ça fait partie d'une expérience quoi similaire, où j'étais en retraite musicale. J'avais pris 3 semaines il y a un an, plus d'un an maintenant, où j'avais où je m'étais isolé dans la montagne pendant 3 semaines, où je m'étais vraiment coupé du monde, même de Céline. On s'était autorisé 2 appels sur 3 semaines. J'avais pas internet et je voyais personne. Donc c'était assez intense comme expérience. Mais c'est pareil, toujours dans la logique de vivre des nouvelles choses aussi. Et donc, la première nuit où j'ai dormi là-bas, dans le petit chalet où j'étais, j'ai rêvé de cette chanson. Donc j'ai commencé à l'écrire le lendemain et puis j'ai fini un peu plus tard. Mais voilà, donc ça fait partie des chansons que j'ai sorties avec mon rouage lunaire pendant une nouvelle lune. Et voilà.
Très bien. Et donc, tu vas continuer à écrire.
Voilà, oui, je vais continuer à écrire et je sortirai peut-être un EP, un album en 2022. Ce serait chouette, ouais. Ah oui.
Je te le souhaite. C'est l'invité de 11h et quelques. On arrive à la fin de ce premier invité de 11h et quelques de la 6e saison. Et donc, allez voir Rive d'Exil ce soir à Luxe.
Je précise que l'entrée est gratuite.
Oui, c'est bien de le dire. C'est vrai que je ne l'avais pas noté. Donc, l'entrée gratuite, c'est encore plus facile pour y accéder. Soyez aiguisez vos curiosités. Je ne le dirai jamais assez. Je continuerai à vous le dire cette saison. C'est Céline Léger et Maxime Lamotte qui ont produit et réalisé ce court-métrage. Nous, en ce qui nous concerne, on se retrouve, alors pas la semaine prochaine, on va sans doute se retrouver qu'une fois par mois cette année, parce qu'il y a plein d'autres rendez-vous à vivre. Mais en tous les cas, voilà, suivez... guettez-nous sur les réseaux sociaux, vous aurez vite l'info. On se quitte avec Les yeux ouverts, je rêve de Maxime Lamotte. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci de nous avoir invités, c'était très agréable.
Avec plaisir.
L'ombre du vent caresse le ciel pour que même les plus tristes rêvent qu'ici la vie est belle. La vie est belle. Aux journées bleues, nuit ou thank you.
On va continuer à faire des selfies dans le studio. Qu'est-ce que t'en penses?
Eh bien, merci énormément. Vive la France libre.
Une révolution humaine.
L'invité de 11h et quelques.